Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à faire entendre votre voix. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Aube, c'est aussi une revue et un blog avec plus de 400 entrées sur tous les sujets. Toutes nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com. Aube, spécial habitation. Ah, qu'il fait bon être chez soi. Que la chaumière vous évoque une bonne soupe aux légumes ou un pain partagé en famille, le cocon dans lequel nous vivons est un microcosme plein de rebondissements. Dans cet épisode spécial, Aube s'est penché sur le concept d'habitation, sur la construction écologique et sur tout ce qui touche de près ou de loin à notre sentiment de sécurité et de confort. Au sommaire, le concept des mini-maisons. La maison dans le cinéma d'horreur. Une entrevue avec Belvedere, éco-constructeur. Aube te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience. Le mot-clé, maison. Qu'est-ce qui fait qu'une ville est agréable, à l'échelle humaine? Ou tout simplement habitable. Son urbanisme, ses politiques, ses festivals, son art. Probablement un peu de tout ça, mais encore. Si on compare une ville à un corps humain, les rues à ses artères, dont le flot sanguin et ses déplacements, l'architecture pourrait être comparée à la fois à la beauté de ses formes, mais surtout à sa conception de l'espace qui nous façonne. En courbe ou en angle, les bâtiments limitent notre champ de vision, ou élèvent nos esprits. Selon Wikipédia, qu'elle soit habitable, sépulcrale, rituelle, institutionnelle, religieuse, défensive, artisanale, commerciale, scientifique, signalétique, muséale, industrielle, monumentale, décorative, passagère, voire purement artistique. Quelle que soit sa fonction, l'architecture est l'art majeur de concevoir des espaces et de bâtir des édifices, en respectant des règles de construction empirique ou scientifique. Ajoutons alors des concepts d'esthétisme, de forme et d'agencement de l'espace, et incluons des aspects sociaux et environnementaux liés à la fonction de l'édifice et à son intégration dans son environnement, et la définition se rapproche donc un peu plus de la réalité de l'architecture qui nous affecte au quotidien. Lorsqu'on visite une ville comme Rome pour la première fois, c'est un véritable microcosme architectural au dédale labyrinthique que l'on arpente des jours et des jours durant. Les moments clés de ma visite à Barcelone, mon périple à vélo, à la découverte des œuvres de Gaudi dont j'avais localisé les constructions sur une carte. Les moments clés de ma visite à Paris? Je vous laisse le soin de terminer ma phrase au Sacré-Cœur. Du centre Pompidou à la Sagrada Familia, l'architecture est une expression de la culture dont personne ne peut rester indifférent et dont tout le monde s'inspire au quotidien pour façonner son imagination. De retour à Montréal, je redécouvre avec un regard, je dirais, neuf, mon amour pour cette jeune cité. Bientôt, elle aura 375 ans. La perspective historique me fait prendre conscience aujourd'hui de sa relative jeunesse et surtout que tout est encore possible ici. C'est drôle, j'ouvre des portes dans mon monologue dont je ne suis plus trop sûr que je vais pouvoir refermer. C'est aussi ça la joie de l'architecture. Pas toujours pratique, parfois poétique. Peut-être c'est ça, l'architecture de cette émission de Aube. Des portes qui s'ouvrent dans le vide ou des portails qui nous téléportent sur les toits. Qui sait?
Des 2 par 4, des bardeaux, des cabochons, du ciment et un niveau. 300 de livres de clous et 20 tonnes de cailloux, des équerres et des tuyaux, des marteaux et un chapeau. Mais n'oublie pas l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est tout d'abord un terrain malorin.
Pour arriver au pignon, il te faut d'abord la cave, un solage et un plancher et un mur de chaque côté. Des fenêtres et des portes, des lucarnes et des poutres, un escalier, un plafond et de la clarté pour monter. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est d'abord un charpentier, mal aux pieds, mal aux pieds, mal aux pieds, mal aux pieds, mal aux pieds. Pour isoler ta maison, il te faut des sacs de laine, de la planche en mouveté, de la colle et du mastic. Coupe froid et coupe chaud, coupe vapeur et coupe vent, papier noir, jaune et gris et d'épaisses feuilles de carton. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est surtout un sac d'écu, mal aux mains, mal aux mains. Pour habiter ta maison, il te faut de l'eau courante, une cheminée pour le feu et un meuble pour la glace. Une table et quatre chaises, une coupe de lit et tout, un éclairage au plafond, une lampe à ton chevet. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison. C'est une femme dedans, mal aux dents, mal aux dents. Si t'as tout ça dans la main, fais venir un bulldozer, un maçon, un contracteur, un ou deux bombenuisiers, un plâtrier et un peintre, deux ou trois cogneurs de clous, un décorateur pas cher, et un homme pour les serrures, et un autre pour les tapis, et un autre pour les rideaux, et un autre pour les armoires, et un autre pour la terrasse, et un autre pour le chemin. Tu n'en finiras jamais, et c'est ça qui est important.
Le phénomène des mini-maisons n'est pas nouveau. Une série télé documentaire existe même aux États-Unis du nom de Tiny House Nation, disponible assez facilement sur les internets. Ce mouvement a pris de l'ampleur au Québec cette année avec la tenue du premier festival des mini-maisons à Lantier, dans les Laurentides. Aube s'est invité de la fête pour récolter les expériences des premiers pionniers du micro-mouvement.
Nous, on est à Saint-Germain-de-Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent.
Mon nom est Charles Meilleur. Nous, c'est série Saint Meilleur et fils dans les Laurentides. On est une série de cèdres qu'on construit toutes avec nos propres matériaux.
Certains concepts de mini-maisons sont déplaçables et donc montés sur une remorque. C'est le cas de la boîte à caresses de Catherine Duval et Pascal Dubé de l'entreprise Ma Maison Logique, située à Kamouraska.
Ben, nous, toute la conception est faite pour que la maison soit le plus efficace possible. Donc, toutes les fenêtres sont des fenêtres triple verre, trempées pour la route.
Elle n'arrive pas en pièces détachées, elle arrive tout assemblée. Tout assemblée. Comme lundi, quand on est venu installer la maison, on s'est timé là, du début jusqu'à la fin. Ça nous a pris 22 minutes de débarquer de la remorque et de se mettre de niveau. Mais c'est sûr que chaque place... Là, ici, on est dans une grande place à air ouverte. On est arrivé, on a pu prendre un grand détour puis se placer comme il faut. Soit en forêt ou sur des terrains, des fois, il y a des arbres, il y a des roches. Il faut planifier en conséquence. Là. Mais tout se fait, là.
Si celle-ci, on ne l'a pas conçue pour qu'elle soit déplaçable, on ne partira pas en voyage faire le tour du Canada avec ce modèle-ci. Par contre, il y a moyen de concevoir des modèles un peu plus petits puis qui puissent être plus légers puis plus transportables.
Quelques terminologies à connaître. Un pied carré correspond approximativement à une tuile standard sur le plancher d'une salle de bain standard. Le BTU est une unité de mesure pour calculer la chaleur dégagée, par exemple, par un poêle ou un foyer de masse.
Ouais, nous autres, on n'avait pas de problème. Le trailer, dans le fond, on l'a dessiné et on l'a fait fabriquer selon nos besoins pour diminuer les ponts thermiques entre le trailer et le plancher. On n'a aucun contact avec du structurel, que ce soit au plafond, le mur, le plancher, avec un élément extérieur. Donc le trailer est complètement isolé de la structure.
La maison va être orientée de sorte qu'on a la vue de la mezzanine vers le fleuve, puis la vue à partir du salon vers le fleuve également. Fait qu'elle va être en oblique pour qu'on ait le fleuve dans les deux directions.
L'idée du chauffage au solaire passif n'est pas nouveau, surtout en milieu nordique.
Maison passive solaire, on n'a pas chauffé une journée l'hiver. On a chauffé tous les soirs, toutes les nuits, c'est sûr. Mais le jour, on n'a pas besoin de chauffer, on ouvrait les fenêtres parce qu'on surchauffait. Donc, il faut respecter les ratios des maisons passives solaires. Il ne faut pas mettre plus que 12 % de fenêtres au sud par rapport à l'espace plancher. C'est trop, ça chauffe, c'est incroyable.
C'est quoi la source de chaleur?
Les fenêtres, la conception de la maison, l'orientation, l'isolation, la forme du toit, passer le vent, la quantité de fenêtres au sud, c'est tout pensé.
Pour la fenestration, c'est toujours les mêmes choses comme ça. Parce qu'on a fait. Quand plus on met des grandes fenêtres, plus on affaiblit notre mur. Puis là, on transporte ça sur le chemin. Fait qu'on essaye de donner le plus de rigidité possible là, à notre bâtisse. Mais sinon, à l'intérieur des murs aussi, on a des armatures de métal pour justement pour pas que la bâtisse, excusez-moi l'expression, mais racle sur le chemin. Fait que c'est pour ça que les fenestrations sont comme ça.
Pour savoir combien de BTU on avait besoin pour chauffer en hiver à moins 32, on avait besoin de 6000 BTU, puis le poêle à bois est capable de pousser 6000 à 14000 BTU. Donc à partir de là, on est correct, sans problème. Puis de toute façon, on crée toute de l'énergie, de la chaleur, nous autres, en fonctionnant. L'espace est tellement petit, puis tout reflète la chaleur, tout accumule la chaleur. On est tout en bois, donc ça donne une certaine masse thermique, c'est pas énorme. Exactement. Non, nous autres, on est plugés directement, mais il y a possibilité. On a gardé de l'espace sur les batteries, tout ce qui est convertisseur, ordinateur, tout ça.
Pour contourner plusieurs réglementations désuètes, certaines entreprises ont appris les règles afin de pouvoir les contourner correctement.
En ce qui a trait les abris forestiers, on est chanceux au Québec, il y a déjà des lois déjà faites pour ça. Il y a certaines dimensions que certaines municipalités acceptent des plus grandes dimensions comme le 12-20, d'autres c'est 12-16. La mesure c'est entre 20 et 25 mètres carrés pour les abris forestiers. Puis l'avantage de ça, ici, le nôtre, il n'y a pas d'eau courante parce qu'un abri forestier, selon la loi, doit être dépourvu d'eau courante. Mais comme dans le coin ici, il y a l'espace déjà exprès pour recevoir un évier par l'arrêt. Fait que là, on va mettre un drain qui va aller direct en bas pour les eaux grises. Fait que ça, on a le droit. Mais c'est pour ça que nous, on ne met aucun eau courante. Ça va être plus facile d'accès dans les municipalités versus les mini-maisons.
Donc toi, tu construis des maisons, des abris forestiers.
Des abris forestiers et non des mini-maisons.
Donc cet abri forestier-ci, c'est combien de... c'est quoi la dimension?
Ici, on a une 12 par 20 qui a 240 pieds carrés, qui vient tout équipé avec frigidaire, four, chauffage, lumière au propane. On a un système de panneaux solaires de 250 watts. Tout fini en dedans et en dehors en cèdre blanc du Québec. Comme celle-là ici, ça se détaille 25 000 $ tout équipé.
La limite de hauteur pour la circulation sur la route, c'est 13 pieds 6 pouces. Nous, on a 13 pieds 4, on est allé chercher le maximum. Puis en largeur, la limite, c'est 8 pieds 6, puis on atteint la limite. Là. Fait qu'on est allé vraiment chercher le maximum du possible.
Et c'est plus long à construire là, en autoconstruction assistée. Quand tu ne sais pas d'avance ce que tu fais, mais un entrepreneur général peut faire ça en 3 ou 2 semaines. Ça coûte bien moins cher aussi si tu le fais plus vite.
Là, c'est une construction qui a débuté le 12 juin dernier, donc par ma maison logique, nous-mêmes. Puis c'est un modèle, le prix fixe, le prix n'est pas fixé encore puisque la construction vient juste de se finaliser, donc on n'a pas le total, mais on est capable de dire quand même que ça se creuse alentour de 50 000 avec tout ce qui est fixe en place, le petit poêle à bois, etc. On a une petite terrasse de 8 par 8 qui nous offre la possibilité d'avoir un petit coin assis avec une petite table. Mais c'est sûr qu'éventuellement, nous, l'été, c'est dehors. Fait que barbecue, tous les repas se font sur barbecue. Fait que ça sera pensé et amené au concept. Ça, on a la table qui vient du mur, qui descend. On a les banquettes amovibles qui peuvent s'installer de sorte qu'on peut recevoir plus de gens autour de la table. La banquette principale qui est fixe et la banquette secondaire sont des banquettes qui s'ouvrent puis qui nous offrent du rangement. Mais également, la banquette principale s'ouvre, se déplie puis nous offre un lit secondaire pour accueillir les amis parce que c'est pas parce qu'on habite dans le petit qu'on n'a plus d'amis.
Pour en savoir plus sur les mini-maisons, visitez la page Facebook Mini-Maisons Québec et le site du Festival des mini-maisons qui comporte de nombreuses références sur les concepteurs et les promoteurs au Québec.
Une grosse maison où vous passerez votre vie à payer. Est-ce que ça vous branche? En plus, faites de matériaux polluants, peu sains et coûteux? Eh bien, les alternatives sont possibles. On a déjà parlé des tiny houses. Elles en sont l'exemple le plus manifeste actuellement. Une volonté de s'affranchir des règles de l'hypothèque traditionnelle est en marche depuis 2008 et ça ne semble pas prêt de s'arrêter. Pour ceux qui souhaitent construire une maison et penser cette étape comme un véritable projet, plusieurs sites sont là, à portée de main, pour connaître à la fois les réglementations, les fournisseurs et les architectes qui ont une autre pratique de la construction. Le Conseil du bâtiment durable, par exemple, regroupe des acteurs de changement de la construction et de l'aménagement, animés par la même volonté de changement dans les pratiques. Et si vous souhaitez aller au cœur du sujet, la construction, le site Écohabitation recense tous les outils indispensables pour construire une maison ou même un écoquartier selon les principes de l'écologie durable. à la fois certification éco-entrepreneur pour les constructeurs qui souhaitent connaître les réglementations, des exemples de maisons passives. Vous pouvez même aller visiter des maisons qui ont repensé totalement leur construction. Il y a également un annuaire d'architectes et d'entrepreneurs. Bref, éco-habitation va vite devenir ton meilleur ami.
Texte et narration d'Aurélie Superchico.
J'ai trouvé ça intéressant que tu choisisses le mot chaumière et non pas maison ou habitat. Alors j'ai fait ma petite recherche et en fait la chaumière finalement c'est plutôt un habitat de type rural, modeste, voire même pauvre d'après ce qu'ils disent. Et quand on pense chaumière, on pense aussi feu de cheminée, on pense réconfort, on pense étroitesse d'espace, mais l'essentiel en fait dans l'espace. Et si tu avais dit, par exemple, demeure ou château ou je ne sais pas, un autre titre ou condo, on n'aurait pas du tout eu cette image qui viendrait en tête. Ça veut dire qu'elle sert au confort de base, à la sécurité. C'est l'endroit où les gens allaient finir leur journée, manger, stocker un petit peu certaines choses, vivre en famille.
On sent l'odeur aussi du repas.
Voilà, c'est que quand on rentre à la maison, on a fini notre journée dans les champs et puis on vient se poser là.
La chaleur du foyer, l'odeur de la
fumée. Chaleur du foyer, mais de la famille aussi, je pense que c'est important. Chaumière, on imagine rarement quelqu'un de seul.
Ta demeure est là où ton corps et ton cœur se sentent bien le plus souvent. Ce qui compte, c'est d'être bien là où on a choisi de vivre, où il y a assez de tranquillité, de chaleur, d'air pur, de lumière, d'espace et si possible, d'y vivre en bonne compagnie. Et oui, le rêve de la famille nucléaire a ses limites, hein, papa, maman, deux petits, est fini de toute façon vers le mi-temps de notre vie. Quand les petits s'en vont et construisent à leur tour leur propre nid. Mais même un tout petit espace, une chambre de bonne sous les combles ou un tiny house dans le bois peut constituer un paradis. C'est sûr qu'il faut un accès à l'air libre, à la lumière et au soleil, car ça aide au physique autant qu'au moral, surtout l'hiver. Qui est heureux dans un recoin obscur au sous-sol, plein de moisissures et de bruit au-dessus de la tête? Hein? Ou pire, l'hiver dans la rue. C'est inacceptable nos jours de laisser se geler de jeunes Inuits comme mon ami Leimika en janvier au métro Atwater. Qu'est-ce qu'on attend pour ouvrir un local tout simple avec des toilettes, un lavabo comme le dernier recours? C'est sûr, côté maison, habitation, les plus riches ont du goût et s'approprient les plus belles maisons. En nature, les plus grands terrains avec vue à Westmount, à Shefford ou à Bromont. Et les pauvres ne peuvent plus à la longue supporter les paiements, les imprévus d'une maison bien située à la campagne, avec tous ces bris imprévus, les nombreuses taxes, l'entretien, l'hypothèque, le déneigement. Mettez-en. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir plus et mieux, plus grand, plus agréable à vivre, mieux situé? C'est de partager, hein, en colocation. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui le font, même à mon âge, donc la cinquantaine passée, ou nos jeunes dans Hochelaga ou dans Villeray. Sinon, si on veut vivre à la campagne, des éco-villages, hein, ou sinon des condos partagés, des maisons multigénérationnelles. Ainsi, en harmonie, en bonne intelligence, une répartition intelligente des charges et des tâches, certainement nous vivrons mieux et plus heureux pour les années à venir, hein? Surtout quand on est plus fragile et âgé, mais avant ça aussi, pour suer moins et avoir plus de plaisir à partager nos individualités, nous endormir, nous réveiller dans la bonne humeur, dans notre home sweet home.
Un texte de Annie Schneider, du nom de Chaumière, foyer, demeure.
La neige caresse le rebord de ma fenêtre, you know? C'est comme, genre, sensation intérieure de bien-être. For sure.
That's right, G. Va me chercher mes pantoufles dans sécheuse. Do you feel me?
Yeah, c'est ça que je vais faire. Mais toi, tu bouges pas.
Je suis à peine réveillé, mais je suis pas pressé. Je resterai toute la journée à briller dans mes droits santé. Je feel zen, I'm zen, j'ai envie de me ressourcer. J'invite mes homies, puis on va se dorloter. On est mollo, you know. Sauf je décroche mon téléphone. Je me guette un bon bain chaud avec la mousse aux pommes. Mon chum scale une tisane comme un motherfucking bum. L'autre fait des flatouilles avec mon gros magnum. Say what, je prends ça off, pas question que je sorte. Je place deux morceaux de casse-tête, j'arrête là, il est trop tard.
J'ai un lampion,
bitch, il faut que ça sente bon.
Une odeur de
blaze it up, come on.
Je me sens comme un gros lâche. Je filerai pour être dans le flash. Du cini du poulet, yeah.
C'est cocooning time, appelle-moi pas, dérange-moi.
On est du pain chez nous. On est quel jour?
On s'en fout. Chilling en jogging, pas le feeling d'être stressé. J'enlève ma bulletproof vest pour siester après le dîner. Si tu te sens pas vaillant, comment viens t'évacher? On se raconte nos rêves, étendus devant le foyer. One love à ma mijoteuse, ça sent bon dans mon cocon. Mes petites patates sont laid back dans un bœuf bourguignon. Mon chat se liche en faisant des ronrons. Motherfucker, tu peux te promener tout nu dans maison. Mes bottes laines sont sur le calorifère, ça va les rendre hot. En mitouflé devant TV, on bécote des biscottes. Se retrouver intérieurement, ça c'est important. Te dé, je traîne de la pâte. Fait que je reste sur le divan.
Coconut time, pas de bobette dans mes jeans. Coconut time, je tisse la porte ouverte. Coconut time, une journée pour être enceinte.
C'est coconut time, appelle-moi pas, dérange-moi.
On
est du pain chez nous.
On est quel jour?
On s'en fout. Coconut time, you know what time it is.
On fait rien, that's right. On se rase pas pis on se lave pas.
Parle pour toi, hein? C'est pas parce qu'on est relax qu'il faut être sale.
Yo, easy, Benji. Pas besoin d'être en beau fusil.
Ah, sorry, G. Je sais pas ce que j'ai, j'suis tendu. J'ai comme le trapèze à vif, bitch.
J'aimerais tout le temps être chez moi. Déguster l'ivresse à domicile d'une douce mélancolie qui frappe l'esprit uniquement les jours de pluie. Mais il en est autrement lorsque l'on est penseur, philosophe, humain, entre autres choses. Tout nous pousse loin de notre demeure, nous exhorte à l'action et condamne l'assiette. Nous joignons nos efforts au sournois acharnement d'une ville ou d'une société, accrue sous la houle brumeuse de terribles artisans. L'argent en est le fer de lance, et sa rampe est lancée, le bien commun. Que faire contre une arme qui elle-même vint percer sans résistance aucune le flanc d'un prophète ? Et qui nous tire loin d'un havre personnel que chacun a mis tant d'années à bâtir et autant à chérir. Rien. Tout simplement, nous ne pouvons rien y faire. Personne ne peut résister à une telle énergie. Tout avance et se bouscule même chez nous. Du dedans au dehors, le vent souffle à jamais contre la nuque de l'homme. Il en frissonne, mais son esprit peut décider de faire de ce souffle l'âcre expiration d'un funeste démon, ou au contraire, la paisible et pourtant tempétueuse mélodie du changement. Tient à nous d'imaginer assez fort dans les recoins ombrageux de nos pénates, le diable ou la muse. S'amuser de ce fer qui à jamais nous tient pour acquis, et libérer nos yeux au-delà de notre devoir, pour simplement ne plus imaginer qu'un vent porté, étendu vers l'avant, dont nous sommes la perle.
« pas à la maison. La chaumière. Il fait froid. Il neige dehors. Et on est à l'intérieur, au chaud. Le feu crépit dans la cheminée. On s'est préparé un bon chocolat chaud. Et on va regarder un bon film chez soi. Le bonheur. Car oui, dans l'imaginaire commun, la maison, la chaumière a ce côté agréable, ce côté réconfortant, chaleureux. On n'est jamais aussi bien que chez soi, entend-on souvent. Déjà, Homère, dans l'Odyssée, nous montrait un personnage qui, malgré toutes les aventures qu'il vit, ne souhaite qu'une seule chose, rentrer chez lui, vivre entre ses parents le reste de son âge. Alors même si c'est la séparation entre la maison et le travail à l'époque de la révolution industrielle qui a donné au chez-soi ce côté agréable synonyme de bonheur, force est de constater que depuis toujours ou presque, la chaumière est un lieu réconfortant et protégé dans l'imaginaire collectif. Et devinez quel est le lieu favori, privilégié de la plupart des films d'horreur. La maison. La chaumière, justement. Et c'est exactement le sujet de Poltergeist, le film de Toby Hooper, sorti en 1982. L'action ne se passe pas dans un château gothique perdu en plein milieu de nulle part, ni dans une grange dans la campagne reculée, mais dans une charmante petite maison d'un quartier résidentiel américain où toutes les maisons sont absolument identiques. En quelque sorte, cette maison, elle ressemble à la maison de tout le monde. Elle ressemble à votre maison. Mais elle devient le lieu de phénomènes de plus en plus étranges et horribles, qui font qu'elle passe du statut de lieu rassurant à celui de lieu effrayant. Mais si on y réfléchit bien, ça n'a rien de nouveau. Car rien ne nous fait plus peur que ce qu'on croit connaître. Qu'y a-t-il de plus effrayant entre un terrain vague peuplé de créatures étranges qui ne ressemblent à rien de connu et une copie parfaite de votre maison, de votre appartement, mais avec quelque chose d'étrange, avec quelque chose d'anormal? Vous n'arrivez pas à savoir quoi, mais vous savez que quelque chose ne va pas. Et là reposent les bases de l'inquiétante étrangeté théorisée par Freud en 1919. D'ailleurs, inquiétante étrangeté, la traduction est belle, mais pas exacte. En allemand, Sigmund Freud parle de Unheimlich. Heim signifie en effet la maison, le foyer. Mais le préfixe Um, qui est l'équivalent de notre dé français, comme dans délocalisé, dégelé ou déridé, ajoute quelque chose d'étrange et de dérangeant au terme. Je connais cet objet, je connais cet endroit, mais il a quelque chose en lui de bizarre, quelque chose qui n'était pas là auparavant et qui est totalement inconnu. L'Unheimlich définit les bases de la plupart des histoires d'angoisse. Et c'est sur ces fondations qu'est construite l'une des plus fameuses séries des années 60, la quatrième dimension de Twilight Zone. Dans un des épisodes les plus fameux, le personnage principal se réveille dans un quartier similaire au sien. Une banlieue américaine comme dans Poltergeist, des maisons toutes semblables. Sauf que tout est parfait, trop parfait. Les pelouses sont trop vertes, les rues sont trop propres, les gens sont trop gentils. En soi, il n'y a rien d'étrange, mais c'est cette absence d'imperfection qui rend cela justement très dérangeant. C'est d'ailleurs, souvenez-vous, l'étrange perfection du monde dans lequel il vit qui fait se rendre compte à Truman Burbank que tout est faux dans son monde, dans le film de Truman Show. Mais quand ce n'est pas la maison elle-même qui est étrangéisée, hantée ou possédée, cela passe parfois par un intrus. Par un personnage souvent malveillant et qui vient à tout moment pervertir le côté rassurant de la chaumière. Cela peut être de méchants cambrioleurs, comme dans Maman j'ai raté l'avion, dont le nom original est Home Alone, seul à la maison, ou bien une poupée maléfique hantée par l'esprit d'un serial killer, comme dans la saga Chucky. Car c'est souvent comme ça que fonctionne l'inquiétante étrangeté au cinéma. La transformation de quelque chose de rassurant en quelque chose d'inquiétant. Pour mettre au jour ce que la chose rassurante cache ou nous permet de cacher. Dans la plupart des films d'horreur basés sur ce principe, en effet, le malheur ne vient pas par hasard s'abattre sur de pauvres gens. Il est le plus souvent métaphorique d'un mal extérieur, comme le sida ou d'autres maladies sexuellement transmissibles dans It Follows, le récent film de David Robert Mitchell, ou d'un mal intérieur que l'horreur permettra ou non d'expier. Et c'est la puissance cathartique que peut avoir l'horreur pour les personnages dans la fiction, ou plus généralement pour le spectateur lui-même. Ainsi, quand on prend un film comme Carrie de Brian De Palma, qui raconte l'histoire de Carrie, une jeune fille maltraitée et méprisée par tous ses camarades de classe et qui se découvre des pouvoirs surnaturels, l'horreur quotidienne que subit le personnage avant que ne surviennent les événements surnaturels est horrible pour le spectateur, mais elle n'est pas horrible pour Carrie. C'est son difficile quotidien. Et ça prend vraiment tout son sens dans les scènes qui nous montrent justement la maison où vit Carrie et sa mère. Celle-ci est à l'inverse de tout ce qui pourrait sembler agréable et rassurant. Elle est très sombre, elle est éclairée d'une manière particulière qui la rend étrange, glauque et qui met le spectateur mal à l'aise. Ce qui annonce déjà, inconsciemment pour le spectateur, l'horreur qui va se passer dans cette maison plus tard dans le film. Et on redoute d'ailleurs, en tant que spectateur, les scènes qui se passent dans cette maison. Mais cette horreur-là est imperceptible pour le personnage de Carrie. Elle n'affecte que le spectateur, qui par un processus d'identification imagine comparativement sa maison et celle de Carrie et se dit qu'il préférerait être chez soi. Ce n'est pas un hasard alors si les films d'horreur sont toujours plus forts quand on les regarde depuis chez soi. Le crépitement du feu de cheminée est maintenant trop fort, dérangeant. Le chocolat chaud semble avoir pris une étrange couleur. Et quelqu'un, quelque chose, semble se tapir dans l'obscurité de cette nuit hivernale.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Plus tôt au début d'émission, nous avons entendu le concept des mini-maisons, la maison dans le cinéma d'horreur. Sans oublier la musique de Félix Leclerc pour bâtir une maison, Cocooning Time de Benji, JF Trépanier et Delicious Mitchell. Et Jean Leloup est à venir avec La Chambre. Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez télécharger nos émissions en balado via laplumedefeu.com.
Donc finalement, je me suis dit, elle répond aux besoins élémentaires. Donc ça, c'est un petit peu la pyramide d'Abraham Maslow. Je suis allée chercher davantage et en fait, cette pyramide, elle a 5 besoins essentiels, enfin, qui sont les besoins physiologiques, donc le sommeil par exemple, la sexualité, la faim, les besoins de sécurité, le besoin d'appartenance et d'amour, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les 4 premiers besoins peuvent être quelque part remplis par la chaumière. Que le besoin physiologique de sommeil, pour avoir un bon sommeil, il faut un lieu où on puisse aller dormir.
Sécuritaire.
Et idéalement sécuritaire. Mmh. C'est aussi le lieu où on va rencontrer son amante, c'est le lieu où on va aller par la suite. Ça correspond, bien, comme on l'a dit, au besoin de sécurité. Il faut qu'on aille un lieu où on sent qu'on ne peut pas être forcément dérangé, qu'on peut avoir une certaine intimité, un certain retrait. C'est un lieu de ressourcement. C'est un lieu d'appartenance et d'amour. Puisque c'est là où on va construire sa famille, c'est là où on va inviter aussi nos amis qui se reflètent un peu de nous-mêmes, de façon à pouvoir partager qui on est avec les autres. C'est pas seulement l'essentiel, c'est aussi, on donne toujours une petite personnalité à un environnement. Donc là, l'appartenance et l'amour viennent d'être comblés, et par conséquent, l'estime de soi aussi renforcée. Donc le quatrième besoin essentiel, la confiance, la reconnaissance, être extrapolé à l'intérieur de cette chaumière.
Le projet Écosphère, grand festival environnemental qui rassemble 2 fois par année des passionnés de tout horizon, est le lieu idéal pour faire toutes sortes de rencontres évolutives et très inspirantes. J'ai rencontré Francis Gendron de Solutions ERA, une entreprise dédiée à l'éducation, à la construction saine.
Tout a commencé, dans le fond, il y a maintenant, c'est 2012, quand je suis allé étudier à la Earthship Academy à Taos, au Nouveau-Mexique. Fait que j'ai étudié les Earthship qui... En français, là, les vaisseaux terrestres, si on voulait le traduire. Là, c'est pas vraiment fait pour être traduit. Là, mais dans le fond, les Earthship, question de spécial, c'est que c'est vraiment l'aspect autonomie. C'est-à-dire qu'ils ils intègrent tous les principes ensemble. C'est-à-dire, moi, tous les types de construction m'intéressent, que ce soit la paille, le chanvre, même la cellulose, ou même dans les méthodes traditionnelles, il y en a qui sont très durables. Sauf que ce que je trouve le fun des Earthship, c'est qu'ils mettent tout ensemble dans un seul bâtiment qui permettait d'avoir un vaisseau terrestre, entre parenthèses, qui, lui, produit lui-même son eau, son électricité, sa chaleur et même dans certains cas la nourriture ou du moins en partie la nourriture. Puis il fait tout ça juste par son interaction avec les phénomènes naturels, donc sans tirer sur une source d'énergie ou d'eau extérieure qui, lorsque tu rassembles plein de maisons comme ça qui tirent constamment, bien, ça fait un gros monstre, une grosse machine à tirer de l'énergie en permanence. Puis c'est ça qui, je crois, t'sais, peut malheureusement créer tellement de demandes qui, des fois, ça va jusqu'à des guerres ou à des situations vraiment pas le fun parce que tout le monde en veut plus au lieu d'être capable de produire par eux-mêmes. Fait que que les Hard Chips, c'est les années 70. Puis c'est Nouveau-Mexique, donc c'est aux États-Unis. Puis c'est à 7500 pieds d'altitude, donc c'est des températures arides, très, très froides. Donc, au niveau de la température, c'est quand même similaire à ici, sauf que c'est là-haut, c'est désertique, contrairement ici, humide. Fait que les plus gros facteurs qu'il fallait considérer, c'était vraiment l'humidité, la gestion de l'humidité. Puis comment ramasser l'eau de pluie, ben nous, en fait, ici, c'est beaucoup plus facile qu'eux, parce que bon, eux, c'est le désert. Fait que oui, effectivement, moi, ma mission, là, ça a été dans les dernières années, comment on fait pour utiliser la même philosophie puis l'adapter au Québec? Puis ce que j'ai fait pour le faire, c'est qu'on a rencontré à peu près tous les spécialistes dans les différents aspects du Québec en gardant la même philosophie de base. Et puis, on a commencé à construire, designer, concevoir des maisons qui pourraient avoir des performances similaires. C'est sûr que vu qu'on commence, eux, c'est 40 ans plus tard. Eux autres, en 70 à 2010, par exemple, ils ont évolué énormément. Nous, on part de là, fait qu'on a beaucoup d'informations, mais il faut... C'est un petit processus avant d'atteindre les mêmes performances, mais... Notre objectif, c'est ça, hein, des maisons qui sont beaucoup plus autonomes. Puis ça, c'est quand même assez facile, c'est-à-dire qu'économiquement, c'est pas vraiment plus cher qu'une maison traditionnelle. Puis après ça, ben là, l'autre niveau, pour ceux qui ont le goût de se donner le défi supplémentaire, ben là, on peut aller chercher des certifications beaucoup plus avancées. Fait que nous, dans le fond, la compagnie, ce qu'on fait depuis le départ, c'est vraiment l'éducation, fait que c'est les formations. Puis il y a des étudiants des cours qui ont construit leur propre maison, parce que nous, on n'est pas des entrepreneurs généraux. Quand on est revenu de là-bas, on avait de la nouvelle information, on avait plein de trucs cool, sauf qu'on n'avait pas un background d'entrepreneur général. Fait qu'on s'est pas lancé en construction tout de suite. D'ailleurs, pendant 3 ans, on a juste offert des cours, puis là, on vient d'offrir les plans. Fait que depuis septembre cette année, on offre les plans en plus. Dans la plupart des cas du résidentiel, un technologue suffit, ce qui fait que les plans sont justement moins chers. Ça, c'est le fun. Si on a besoin d'un architecte, on peut en avoir un pour eux aussi, si c'était une complexité là, qui faisait que ça requiert un architecte. Puis après ça, nous, c'est ça. Soit ça peut être un autoconstructeur, fait qu'on lui donne juste le plan puis il peut construire par lui-même, ou on peut l'aider à trouver un éco-entrepreneur qui va faire. Parce que c'est sûr, un entrepreneur général traditionnel pourrait faire la job, parce que c'est un plan qui respecte le code et tout ça. Sauf que c'est sûr, s'il n'est pas habitué avec ces isolations vraiment plus performantes-là, puis l'étanchéité et tout ça, ça se peut que tu aies un vraiment bon plan puis une performance qui ne suit pas exactement le plan si ça n'a pas été bien fait. Là. Chauffage bioclimatique, c'est-à-dire qu'il va utiliser une très bonne isolation, une étanchéité, la masse thermique et le solaire passif pour réduire la consommation d'énergie de 50 à 80 % en partant. Collecte de l'eau pluie pour, si la personne le désire, ça peut être juste pour la laveuse et la salle de bain, je parle spécifiquement de la toilette. Puis ça peut aller jusqu'à la douche aussi, mais ça, c'est ce qu'on consomme le plus, qui consomme le plus d'eau. Fait que quand on règle déjà ça avec l'eau pluie, c'est énorme. Ça peut aller jusqu'à une autonomie comme à Taos qui filtre toute l'eau, là. Fait que pour l'eau. Puis sinon, on a la production de nourriture qui peut être vraiment intéressante, c'est-à-dire on fait juste ajouter une serre adjacente. Puis tout dépendant de la personne, si c'est un jardinier dans l'âme, tu sais, il y a le pouce vert, bien, il peut produire beaucoup ou moins si c'est quelqu'un qui voudrait plus avoir des plantes qui sont le fun à côtoyer puis qui sentent bon, puis des choses comme ça. Fait que pendant longtemps, nous, c'est ça, quand on faisait les formations, puis c'est ça qu'on continue à faire. Quand on fait les formations, on donne toute l'information pour ceux qui auraient le goût de se construire des maisons en pneus. Il y en a quelques-unes qui se sont construites au Québec. La seule chose, c'est que c'est impossible dans du clé en main. Fait que c'est vraiment pour l'autoconstructeur seulement. Un petit peu comme même la paille, même le chanvre. Il y a paille et chanvre, il y a quelques possibilités d'avoir un autoconstructeur qui l'aide, mais c'est pas aussi facile que dans du traditionnel, bien sûr. Fait que les pneus, vu que c'est pour les fondations, c'est possible de le faire, mais ça va être dans un contexte d'autoconstructeur. Fait que nous, on va en parler dans les formations. Si les gens ont le goût de le faire, on les encourage à le faire. S'ils veulent faire du clé en main, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire tout ce processus-là, nous, on va recommander les fondations dalles monolithiques en ciment, puis après ça, avoir des murs en cellulose, double ossature. Fait que comme ça, ce qui est le fun, c'est que c'est quand même des matériaux naturels et recyclés. La cellulose, c'est du papier journal recyclé, ce qui est ça l'objectif. Sauf que c'est sûr qu'il n'y aura pas les pneus là, d'inclure le recyclage de pneus qui est quand même vraiment intéressant aussi.
Pour avoir plus d'informations sur Solution ERA, visitez solutionera.com.
n'est pas le ciel. En bas, ce n'est pas la cour. Au loin, ce n'est pas la mer. Ce n'est pas la mer.
Dans l'épisode 23, on avait eu la chance de rencontrer Francis Gendron de Solutions RA qui nous parlait de maisons écologiques et même de Earthship ou habitations autonomes. Aujourd'hui, concentrons-nous davantage sur le côté de la consommation énergétique d'une maison. Alors ça se passe comment concrètement pour avoir chaud et économiser les dépenses en eau? Première étape, le programme Éconologie, le seuil minimal de ton investissement en optimisation énergétique. Ce programme mis en place par le ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles est peu connu du grand public. Et pourtant, si vous êtes admissible selon les critères fixés par le ministère, donc des critères de revenu minimal, vous pourrez avoir la visite d'un conseiller en efficacité énergétique qui apporte des recommandations côté consommation d'énergie. Donc des conseils sur le chauffage, sur votre consommation en eau et l'éclairage, etc. Et ce conseiller pourra même procéder gratuitement à certaines installations comme les calfeutrages des fenêtres, l'installation de coupe froid en bas des portes, l'installation d'un pommeau de douche à débit réduit. Il pourra même vous installer gratuitement un thermostat électronique à votre domicile. Deuxième étape, la construction d'une maison écologique depuis le départ. Pour en savoir plus, on est allé directement chez Belvédère, une entreprise de conception et de construction de maisons écologiques qui a le vent en poupe avec une quinzaine de maisons construites par année.
Bonjour, je m'appelle Patrick Ranger, je suis directeur général de Belvédère, compagnie de conception et de construction de maisons écologiques. Bien, la mission de Belvédère, c'est de faciliter l'accès à la construction écologique. Comment on y arrive? En fait, là, on a une approche assez low-tech qu'on appelle. On met beaucoup l'accent sur l'enveloppe, sur la réflexion de la maison. On s'arrange pour que la fenestration soit plein sud. Et avec tout ça, la recette qu'on a eue, c'est on a des murs, grosso modo, R35. On a toujours du triple vitrage. Avant, on n'en mettait pas toujours. On isolait plus les murs, mais on s'est rendu compte que vraiment, le vitrage, là, c'est important. C'est toujours rentable de mettre du triple vitrage. On a des plafonds R60, là, qui est comme la norme Nouveau Climat 2.0.
À noter que Nouveau Climat est une norme mise en place par le ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles qui encourage la construction de maisons neuves à haute performance énergétique. Les critères permettant d'obtenir cette norme sont très serrés et examinés par un évaluateur désigné par le ministère. Et oui, Nouveau Climat, c'est du sérieux.
On isole beaucoup les fondations aussi. Là. Nouveau Climat sous-estime un peu les pertes de chaleur, à notre avis, par les fondations. Puis on considère qu'il faut isoler beaucoup au-delà de la norme pour y arriver. Donc on isole les murs à R30, puis le soudale toujours au minimum R16. On s'arrange pour avoir une plus forte masse thermique dans la maison pour accumuler la chaleur. Donc quand le soleil plombe dans la maison, puis il va donner beaucoup d'énergie puis il va faire monter la température de la maison. Donc c'est mieux d'avoir une bonne masse pour accumuler cette chaleur-là. Le plancher de béton est un bon exemple. Parfois, ça peut être complexe d'ajouter un plancher de béton, surtout quand on a un plancher, par exemple, qui est au deuxième étage, on a une structure de bois, donc aller couler du plancher de béton par-dessus, c'est un peu plus complexe.
Avec une quinzaine de constructions par année, Belvédère agit en campagne, mais aussi en ville. Patrick Ranger nous démontre qu'une telle construction est possible en milieu urbain.
Notre plus grosse région, c'est l'Estrie. On fait beaucoup de projets aussi dans les Laurentides, en Montérégie. Là, mais on a un territoire assez étendu parce qu'on est spécialisé en construction écologique seulement. On ne fait jamais un projet de construction standard. Ça nous arrive de faire du multilogement. Des duplex, c'est assez courant là, qu'on va en faire. Puis des fois, on travaille aussi sur des plus gros projets. On a un projet qui va démarrer l'été prochain. Ça va être des triplex à Tremblant. Oui, on peut le faire en ville. Dans le cas où on travaille en ville, en général, ça prend des plans signés, scellés par un architecte. Dans ces cas-là, les plans, on ne les fait pas à l'interne. Mais oui, on peut construire plus écologique en ville. Les mêmes principes s'appliquent. C'est sûr que le salaire passif est plus contraignant quand on est dans un territoire urbain, mais on peut quand même optimiser l'enveloppe puis choisir des triples vitrages. Ça s'applique aussi. Des échangeurs d'air plus efficaces aussi, ça s'applique aussi. Donc, tous les mêmes principes s'appliquent.
Enfin, Belvédère sait s'entourer et s'attache les services de fournisseurs qui non seulement ont les connaissances en construction écologique, mais ont aussi la curiosité d'aller un peu plus loin.
Presque tous les produits qu'on utilise, donc, c'est des matériaux, des manufacturiers standards. Évidemment, on prend en général leur gamme la plus écologique, comme dans le cas des fenêtres. On prend des fenêtres à triple vitrage, c'est les plus performantes que notre manufacturier utilise. L'isolation à la cellulose, c'est très commun dans les combles. Pour isoler la toiture. C'est un matériau en vrac peu coûteux, puis il y a beaucoup de fournisseurs pour ça. Ce qui est plus difficile, c'est quand on fait des murs isolés à la cellulose, là on a besoin d'une forte densité, puis c'est pas tous les fournisseurs qui ont l'appareil là, pour souffler à la densité 3,5 livres par pied cube. Mais c'est relativement facile à trouver, là. Il y en a beaucoup des fournisseurs. Par contre, pour le reste, effectivement, nos sous-traitants, ceux qui travaillent avec nous, les charpentiers surtout, là, c'est un métier assez complexe, charpentier. Il y a beaucoup de choses à savoir dans une maison. Ils passent beaucoup de temps sur le chantier à assembler plusieurs choses. Ils doivent bien installer les isolants, faire des enveloppes étanches à l'air, faire des enveloppes étanches à l'eau pour que ça dure aussi. Il y a beaucoup de nos sous-traitants que, quand on les engage pour les premières fois, ils avaient déjà fait cette réflexion-là.
Pour optimiser l'énergie dans sa maison, les alternatives et les solutions ne manquent pas. Ce qui manque encore, pour une partie large de la population, c'est l'envie, l'enthousiasme et le premier pas. Il n'est pas facile de compter parmi les pionniers, mais si vous aimez la créativité, cette avenue qui est encore en défrichage est pleine de promesses et ne demande qu'à être explorée. Pour en savoir davantage, allez sur le site de belvedere.com, vous y verrez une vidéo explicative qui résumera visuellement tout ce que vous venez d'entendre.
Une maison écologique, si on fait l'analogie avec un gâteau, par exemple, on rajoute pas du crémage vert par-dessus un gâteau qui ne serait pas. On s'arrange pour que la pâte soit verte. Donc, la maison elle-même est efficace. Puis après, s'il y a encore des fonds disponibles pour investir en efficacité énergétique, là, on va ajouter des technologies.
C'était un reportage d'Aurélie Subercicot.
La maison où s'exploite la pension bourgeoise appartient à Mme Vauquer. Elle est située dans le bas de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, à l'endroit où le terrain s'abaisse vers la rue de l'Arbalète par une pente si brusque et si rude que les chevaux la montent ou la descendent rarement. Cette circonstance est favorable au silence qui règne dans ces rues serrées, entre le dôme du Val-de-Grâce et le dôme du Panthéon, deux monuments qui changent les conditions de l'atmosphère en y jetant des tons jaunes, en y assombrissant tout par les teintes sévères qui projettent leur coupole. Là, les pavés sont secs. Les ruisseaux n'ont ni boue ni eau. L'herbe croît le long des murs. L'homme le plus insouciant s'y attriste comme tous les passants. Le bruit d'une voiture y devient un événement et les maisons y sont mornes. Les murailles y sentent la prison. Un Parisien égaré ne verrait là que les pensions bourgeoises ou des institutions, de la misère ou de l'ennui, de la vieillesse qui meurt, de la joyeuse jeunesse contrainte à travailler. Nul quartier de Paris n'est plus horrible, ni, disons-le, plus inconnu. La rue Neuve-Sainte-Geneviève, surtout, est comme un cadre de bronze, le seul qui convienne à ce récit, auquel on ne saurait trop préparer l'intelligence par des couleurs brunes, par des idées graves, ainsi que, de marche en marche, le jour diminue et le champ du conducteur se creuse, alors que les voyageurs descendent aux catacombes. Comparaison vraie, qui décidera de ce qui est plus horrible à voir, ou des cœurs desséchés ou des crânes vides? La façade de la pension donne sur un jardinet, en sorte que la maison tombe à angle droit sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève, où vous la voyez coupée dans sa profondeur. On entre dans cette allée par une porte bâtarde, surmontée d'un écriteau sur lequel est écrit « Maison Vauquer » et dessous « Pension bourgeoise des deux sexes et autres ». Pendant le jour, une porte à claire-voie armée d'une sonnette criarde laisse apercevoir au bout du petit pavé sur le mur opposé à la rue une arcade peinte en marbre vert par un artiste du quartier. Sous le renfoncement que simule cette peinture, s'élève une statue représentant l'amour. À voir le vernis écaillé qui la couvre, les amateurs de symboles découvriraient peut-être un mythe de l'amour parisien qu'on guérit à quelques pas de là. À la nuit tombante, la porte à claire-voie est remplacée par une porte pleine. Le long de chaque muraille règne une étroite allée qui mène à un couvert de tilleuls. Entre les deux allées latérales est un carré d'artichauts flanqué d'arbres fruitiers en quenouille et bordé d'oseilles, de laitues ou de persil. Sous le couvert de tilleuls est plantée une table ronde peinte en vert et entourée de sièges. Là, durant les jours caniculaires, les convives assez riches pour se permettre de prendre du café viennent le savourer par une chaleur capable de faire éclore des œufs. La façade, élevée de 3 étages et surmontée de mansardes, est bâtie en moellons et badigeonnée de cette couleur jaune qui donne un caractère ignoble à presque toutes les maisons de Paris. Derrière le bâtiment est une cour large d'environ 20 pieds, où vivent en bonne intelligence des cochons, des poules, des lapins, et au fond de laquelle s'élève un hangar à serrer le bois. Entre ce hangar et la fenêtre de la cuisine se suspend le garde-manger, au-dessous duquel tombent les eaux grasses de l'évier. Cette cour a sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève une porte étroite par où la cuisinière chasse les ordures de la maison en nettoyant cette sentine à grand renfort d'eau sous peine de pestilence. Naturellement destinée à l'exploitation de la pension bourgeoise, le rez-de-chaussée se compose d'une première pièce éclairée par les deux croisées de la rue et où l'on entre par une porte-fenêtre. Ce salon communique à une salle à manger qui est séparée de la cuisine par la cage d'un escalier dont les marches sont en bois et en carreaux de couleur frottée. Rien n'est plus triste à voir que ce salon meublé de fauteuils et de chaises en étoffe de crin à raies alternativement mat et luisante. Au milieu se trouve une table ronde à dessus de marbre Sainte-Anne décorée de ce cabaret en porcelaine blanc orné de filets d'or à demi effacés que l'on rencontre partout aujourd'hui. La cheminée en pierre, dont le foyer toujours propre atteste qu'il ne se fait de feu que dans les grandes occasions, est ornée de 2 vases pleins de fleurs artificielles, vieillies et encagées, qui accompagnent une pendule en marbre bleuâtre du plus mauvais goût. Cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue et qu'il faudrait appeler l'odeur de pension. Elle sent le renfermé, le moisi, le rance. Elle donne froid, elle est humide au nez, elle pénètre les vêtements. Elle a le goût d'une salle où l'on a dîné. Elle pue le service, l'office, l'hospice. Malgré ces plates horreurs, si vous la compariez à la salle à manger qui lui est contiguë, vous trouveriez ce salon élégant et parfumé comme le doit être un boudoir. Cette salle, entièrement boisée, fut jadis peinte en une couleur indistincte aujourd'hui, qui forme un fond sur lequel la crasse a imprimé ses couches de manière à y dessiner des figures bizarres. Vous y verriez un baromètre à capucin qui sort quand il pleut, des gravures exécrables qui ôtent l'appétit, tout encadré en bois noir verni à filets dorés, un cartel en écaille incrusté de cuivre, un poêle vert, des quinquettes d'argan où la poussière se combine avec l'huile, une longue table couverte en toile cirée assez grasse pour qu'un facétieux externe y écrive son nom en se servant de son doigt comme de style, des chaises estropiées, des petits paillassons piteux en sparterie qui se déroulent toujours sans se perdre jamais, puis des chaufferettes misérables à trous cassés, à charnières défaites dont le bois se carbonise. Pour expliquer combien ce mobilier est vieux, crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide, expiant, il faudrait en faire une description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire et que les gens pressés ne pardonneraient pas. Enfin, là règne la misère sans poésie, une misère économe, concentrée, râpée. Bientôt, la veuve se montre attifée de son bonnet de tulle, sous lequel pend un tour de faux cheveux mal mis. Elle marche en traînassant ses pantoufles grimacées. Sa face vieillotte, grassouillette du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet, ses petites mains potelées, sa personne dodue comme un rat, son corsage trop plein qui flotte sont en harmonie avec cette salle où suinte le malheur, où s'est blottie la spéculation et dont Mme Vauquer respire l'air chaudement fétide sans en être écœurée. Enfin, toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. Son jupon de laine tricoté qui dépasse sa première jupe faite avec une vieille robe et dont la ouate s'échappe par les fentes de l'étoffe lézardée résume le salon. La salle à manger, le jardinet, annonce la cuisine et fait pressentir les pensionnaires. Quand elle est là, ce spectacle est complet.
Le Père Goriot, un texte d'Honoré de Balzac. Narration et adaptation de Marie-Claude Tardy. Qui conclut cet épisode de Aube. Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. Si vous vous sentez inspiré par Aube, nous vous invitons à participer à notre émission. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Si vous avez 2 minutes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter. Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, d'Alexandra Vincent, Aurélie Superchico, Jean-Baptiste Gardarin, Annie Schneider, Pierre Charpioz et Marie-Claude Journeau. À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé.